Je regarde la carte du monde et je vois tout à coup sur l'Amérique un morceau énorme, les États-Unis. C'est vrai qu'on parle toujours des Anglo-Saxons et c'est pourtant des Espagnols qui ont découvert la Californie, la Floride, les terres les plus incroyables, le Colorado par exemple. Aujourd'hui, nous partirons d'abord avec Cortés. Ensuite, nous découvrirons celui qui a été son ennemi, Núñez, qui va prendre en pince ce continent véritable que sont les États-Unis. Et ensuite, eh bien, on partira avec Cabeza de Vaca, qui a un nom tellement extraordinaire qu'on a envie de marcher pendant 8 ans à travers ces États-Unis avec lui. Et si l'on replantait le décor, si l'on retrouvait ces années folles de la conquête espagnole. Nous sommes sur la route de l'Eldorado. Nous n'avons pas encore rencontré cet endroit doré, cet endroit magique. Aujourd'hui, nous allons partir pour la première fois vers le nord. Mais rappelez-vous, en 1492, au mois d'octobre, c'est Christophe Colomb qui découvre effectivement San Salvador. Mais à l'autre bout de l'histoire de cette conquête de l'Eldorado, il y a Pedro de Valdivia qui s'installe à Santiago de Extremadura. Vous savez, Santiago de Chile, comme on l'appelle aujourd'hui, a été fondé en février 1541. Si je vous donne deux dates comme cela, c'est simplement parce que si ces premiers matelots espagnols qui ont été un peu ivres de découvertes, qui cherchaient en fait l'Asie, et plus encore toutes ces légendes qui étaient derrière la Chine et le Japon, ces hommes-là, lorsqu'ils ont chanté leur Te Deum sur les plages de San Salvador, c'est vrai qu'ils ont ouvert une époque des grandes conquêtes, et c'est ce geste de Valdivia qui va poser la première pierre de la capitale chilienne au bord du Rio Mapocho, qui fermera cette véritable recherche de l'Eldorado, de la conquête. Donc, en 50 ans, c'est peu, un demi-siècle, eh bien, en un demi-siècle, on va réussir à s'emparer totalement du Nouveau Monde. Parce que je dis s'emparer, en fait, c'est pas vraiment le but de ces conquérants. Conquérir, explorer, je crois que c'est un peu autre chose qu'ils recherchent. Ce qu'ils ont fait, véritablement, c'est reconnaître. Parce que conquérir, conquérir quoi d'abord, hein ? Les moyens dont disposaient les Espagnols n'étaient pas tout à fait, regardez une carte, à la mesure des territoires immenses qu'ils voyaient devant eux, qui se déroulaient devant eux. Et il y a eu des têtes de pont, et on a déjà tenté d'en connaître une, c'est-à-dire qu'on est parti d'abord dans cette principale source d'exploration, c'est-à-dire le Mexique. On continuera d'ailleurs aujourd'hui en partant du Mexique, mais il y a eu également l'Amérique centrale. En Amérique centrale, ça n'était pas Mexico, bien sûr, c'était plutôt Panama qui était le centre de tout, et ensuite il y a le sud, naturellement, où là on se retrouvera plutôt dans la région de Cusco, c'est-à-dire en plein cœur de l'Empire Inca. C'est vraiment l'endroit le plus fort, peut-être, pour découvrir toute l'Amérique du Sud. Ça sera peut-être le thème d'un de nos prochains longs cours. Mais si je parle des premiers conquérants, si je parle de ce premier conquistador qui est arrivé au Mexique, et si vous avez vous-même pu découvrir ce qu'était le Cortés de cette époque-là, je crois qu'il faut aussi parler de sa façon d'avoir terminé la découverte de ce sous-continent. Parce qu'il a eu le courage d'abord non seulement les parties du sud, puisqu'il est parti au Honduras, puisqu'il a été jusqu'en Amérique centrale, mais tout à coup il va songer au nord. Et c'est la première fois qu'on a envie de devenir septentrional, et ce sera justement Cortés, qui a bien connu le Sud, qui aura ce courage de monter en direction des États-Unis, ce qu'il deviendra les États-Unis. Et ce capitaine général, il a toujours son titre, il a été dépouillé, c'est vrai, de son commandement, mais il est vainqueur de Mexico, on s'en souvient, et il va monter à ses frais une expédition qui sera malheureuse, c'est vrai, mais peut-être une des plus intéressantes, parce que vous imaginez où se trouve Acapulco sur la carte. Eh bien, vous montez vos bateaux, enfin, vous faites construire. Quand je dis monter, c'est parce qu'on prenait toujours les matériaux du côté atlantique, on les rapportait, on faisait 1000 km avec certains produits, avec certaines choses, enfin, tout ce qui pouvait manquer pour construire un véritable bateau à l'occidental. Donc, vous le voyez là, à Acapulco, en train de monter, de reconstruire ces navires. Ils étaient trois, et ils vont suivre ensuite, très tranquillement, les côtes du Pacifique, jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond du golfe de Californie. Est-ce que vous l'imaginez avec cette basse Californie qui se trouve sur la gauche, cette espèce de langue de terre qu'on repère toujours sur la carte et qui déborde? Eh bien, c'est la mer de Cortés. Aujourd'hui encore, c'est d'ailleurs le seul endroit du Mexique où l'on entend encore parler de Cortés. Ce Golfo de Cortés, il existe encore sur la carte. C'est le seul lieu qui porte le nom de ce conquérant. Parce que quand on parle d'un lieu comme cela, on a envie d'être en vacances, c'est vrai. C'est inouï de voir le nombre d'Américains qui ont finalement aujourd'hui découvert ce qu'était la mer de Cortés. C'est une des mers les plus poissonneuses du monde, en tout cas une des plus riches en poissons exotiques. Ce sont des lieux très désertiques, c'est vrai, mais on a trouvé de l'eau et petit à petit, on a réussi à, surtout à s'installer sur les plus belles plages. Je pense à Cabo San Lucas, enfin, il y a certains lieux de rêve où, tiens, je prendrais bien un avion pour y retourner maintenant. Mais les établissements qui ont été fondés à cette époque-là par notre infatigable conquérant qui est Cortés, je pense à Santa Cruz qui n'existe pratiquement plus sur la carte, à Guaymas, sont des lieux qui ne vont pas durer parce qu'ils étaient à peu près 300 colons au départ. Il y en a déjà une bonne vingtaine qui vont mourir à cause des fièvres. C'est un endroit extrêmement chaud, très continental en même temps. Il y a des rapports de force entre froid et chaud qui sont assez curieux. Et puis les autres, ils vont tous vouloir retourner en arrière, c'est-à-dire revenir au Mexique dans ces terres fertiles et remarquables du centre. La seule chose qu'avait pu faire Cortés par ce voyage malheureux, c'était découvrir, il a été le premier, découvrir quelque chose qui aujourd'hui prend une importance démesurée pour les États-Unis, la Californie, bien sûr. Et si je parle de ce côté-là des États-Unis, immédiatement je repense à son ennemi de toujours, c'était Narvaez, qui était venu exprès pour l'embêter, si je peux dire, à partir de Veracruz, qui était arrivé après lui lorsqu'il avait commencé la conquête du Mexique. Et Narvaez, c'est un peu ironique, c'est un destin assez curieux, il va reprendre ses mêmes recherches vers le nord, mais au lieu de partir du côté gauche du continent, il va monter carrément sur cet est du Mexique, et après la Californie, c'est la Floride qu'on va maintenant pouvoir découvrir. Alors Narvaez, lui, il va partir avec quatre bateaux et il va rassembler derrière lui 400 ou 500 soldats et des marins, bien sûr, des futurs découvreurs qui cherchent vraiment de l'or. Ça, c'est la chose de toujours. Il y a à peu près 80 chevaux qui sont là aussi parce qu'on a remarqué quand même, enfin, on a fait de nombreuses expériences avec les chevaux maintenant et on sait que le cheval, c'est l'outil de la colonisation, c'est-à-dire dès qu'on lui enlève son harnais, dès qu'on l'attelle à une charrue, c'est quelque chose d'important. Ça permet immédiatement de coloniser totalement le lieu qu'on vient de trouver. Même si au départ, il est utilisé pour faire peur aux Indiens, parce que c'est la véritable raison qui va pousser l'Espagnol à importer d'Europe autant de chevaux et à tâcher d'en avoir le plus possible sur place. Je repense à ça parce que, comme enfant, je crois que c'est ce qui me fascinait le plus, c'était de voir ces Indiens monter sur des chevaux sans selle. Vous savez, ces Sioux, ces Apaches des États-Unis, et de penser que ce sont peut-être un de ces 80 chevaux, enfin deux, hein, ce serait plus logique, de ces chevaux qui se sont perdus dans les plaines de l'Est ou même à l'époque de Cortés, du côté californien, et qui finalement se sont perdus dans ces plaines. Et on va le voir aujourd'hui, on va voyager à travers ces terres indiennes. Tous ces Indiens qui vont se transformer en excellents cavaliers en montant sur ce qu'on appelle les Mustangs, qui ne sont en fait que quelques-uns de ces chevaux espagnols oubliés dans les terres de ces nomades indiens. Et si j'ai parlé de ce problème de l'agriculture, c'est parce que Narvaez va monter jusqu'à Tampa. Vous voyez où se trouve Tampa? C'est vrai que ce sont tous des lieux où on a envie de prendre des vacances. On va débarquer ici et il va prendre 300 hommes, mais à l'époque, il n'y avait que de la jungle. Vous le voyez s'enfoncer avec ses troupes en direction du nord. La Floride, pour moi, c'est d'abord cette tiédeur extraordinaire des hivers. Ce sont les longues plages de sable, les orangers, des pamplemousses de Tampa, des îles paradisiaques. Enfin, il y a ce côté aussi. Je crois qu'il y a en Floride cette douceur qui a une odeur. C'est assez particulier à ce pays. Et puis, Il y a surtout cet été interminable. Pourquoi tous les gens d'un certain âge désirent finir leur jour en Floride lorsqu'on vit aux États-Unis? Mais pour l'instant, Navarez, il progresse péniblement le long de cette péninsule basse, marécageuse, qui est hérissée de forêts épaisses, véritablement. Et de temps en temps, on trouve un lac. C'est une marche harassante et ils vont arriver vers un village qui a un très beau nom, Appalaches. Voilà, Appalaches, Apalache en espagnol, cet endroit où Navarez va établir son camp. Et ce qu'il recherche, autant à l'est qu'à l'ouest, ce sont des mines d'or. On part, on revient, rien. Vraiment absolument rien. Le désert absolu. Bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Retourner au Mexique, revenir en arrière, les mains vides. Alors là, vous voyez ces troupes qui regagnent la côte. Je vous ai parlé des difficultés. Quand vous arrivez sur la côte, vous regardez cette plage de sable. Et qu'est-ce que vous voyez à l'horizon? Vos propres bateaux. Aux bateaux qui sont en train de partir, qui sont en train de vous laisser, qui ont été fatigués de vous attendre. C'est ce que Narvaez trouve en arrivant. Et c'est vrai que ça doit être terrifiant de voir ces bateaux qui partent, qui s'enfuient, et ces hommes qui maintenant, bon, devront trouver une solution. Et c'est assez terrible, parce que là, ces hommes vont devoir construire eux-mêmes des radeaux. Et on sait qu'ils ont construit 5 radeaux. Et c'était l'obligation, parce qu'il fallait d'abord trouver des pièces de bois, ça c'était pas trop compliqué, mais il a fallu trouver des liens. Et là, on a coupé la queue de tous les chevaux afin de créer des cordes. Alors vous imaginez maintenant ces 5 radeaux sur la plage, et vous partez avec des mâts où vous avez mis vos propres pourpoints pour faire des voiles. Enfin, c'est quelque chose de très artisanal. Et tant bien que mal, ben, on va vers l'ouest. On s'avance petit à petit, on essaye de rejoindre cette région du nord du Mexique qu'on appelle Panuco. En cours de route, bah, vous avez naturellement une tempête, hein, comme dans toutes les histoires terribles, et 4 radeaux vont être jetés sur la côte, juste à l'embouchure d'un endroit magique. C'est le Meshacabé ou le Meshecabé. C'est un nom assez curieux, un nom indien qui veut dire le dieu des eaux. Et oui, ces hommes involontairement s'étaient posés sur l'embouchure, étaient arrivés juste dans l'embouchure de ce Mississippi. Ce Mississippi qui fait rêver, ils étaient pratiquement arrivés à l'endroit où l'on va construire la future Nouvelle-Orléans. Et le 5e radeau, ben oui, vous avez bien compté, il en manque un, sur lequel se trouvait d'ailleurs Narvaez, va être emporté vers le large. C'est ainsi que va périr le lieutenant de Diego Velázquez, celui qui tenait tout Cuba et qui avait empêché Cortés de partir. Il va se noyer au large du Mississippi. Alors bon, ben, si le capitaine est mort, un homme va quand même réussir à aborder une de ces îles tout près du Mississippi, près de Galveston, c'est l'endroit actuel, on essaie de le repérer sur la carte, et c'est un homme qui porte un nom étrange. Il faudra que je vous le traduise, parce que Núñez Cabeza de Vaca, ça veut dire tête de vache en français. Et Cabeza de Vaca, il a peut-être vécu l'aventure la plus incroyable de toute la conquête et de toutes les recherches d'Eldorado. Il a été d'abord fait prisonnier par les Indiens, et il va réussir à les amadouer. Ça, c'est pas trop difficile lorsque vous arrivez comme occidental. Il va d'abord, bah, je crois que son intelligence, ça a été de jouer au guérisseur. On sait que, bon, de temps en temps, il faisait un signe de croix sur un Indien qui avait l'air d'être un peu plus en forme qu'un autre lorsqu'il était malade. Et il a été véritablement le dieu de ces gens-là. Il va, bon, devoir rester comme grand sorcier pendant quelques temps. Sa seule idée, c'est de s'enfuir. Et finalement, une fois qu'il a endormi complètement la méfiance des Indiens, Il va leur fausser compagnie et il va partir avec un esclave. On sait pertinemment que Esteban était mort, un mauresque, donc il va avoir la peau très foncée, ce qui devait aussi intriguer beaucoup les peaux rouges. On a déjà trois couleurs là. Et il va s'enfuir avec deux autres compagnons. Il va partir droit devant lui en direction du nord. Alors c'est assez curieux qu'il ait choisi de partir au nord, mais il faudrait voir exactement sur votre carte où se trouve le Mississippi. Et c'est là que vous comprendrez peut-être que c'était la seule direction qu'il pensait logique de pouvoir suivre. Et vous imaginez, il va mettre 8 ans pour faire la jonction avec un commandement espagnol au Mexique. C'est-à-dire que, parti vers le nord, il va faire le voyage le plus fantastique de tous les temps. C'est qu'il va traverser à pied, de part en part, tous les États-Unis d'Amérique. Alors, voyez maintenant, vous êtes dans le Mississippi, vous allez vers l'Arkansas, vous allez sur le Colorado, vous descendez vers le Nouveau-Mexique, vous arrivez en Arizona, et c'est à Culiacán, c'est-à-dire dans la région de Sinaloa, déjà du côté mexicain actuellement, sur la côte californienne, que notre Cabeza de Vaca va finalement suivre la vallée du Sonora, il va traverser tout le désert du Chihuahua, et finalement, il rencontrera un certain Diaz, Melchior Diaz, qui est le chef de tout ce territoire, qui est assez désertique, et on imagine ce moment, hein, l'abrasso de ces deux hommes, qui se retrouvent, et c'est vrai que ça a dû être un moment extraordinaire parce que réussir cet incroyable exploit comme Cortés l'avait fait en partant vers le Honduras, je crois que c'est quelque chose d'assez fou, mais ça cache en même temps une sorte d'échec, même s'il y a victoire après 8 ans. Et vous allez voir que c'est assez étrange comme échec, parce qu'au fond, c'est à cause de son histoire que, de retour au Mexique, il va commencer à faire des discours, bien sûr un peu emphatiques. Il va dire qu'il a découvert des choses qui sortent de l'ordinaire. Et on lui demande ce qu'il a vu au juste. Alors lui, il répond que il a découvert des villes, il a vu des choses fantastiques, qu'il y a certainement un mystère septentrional, enfin qu'il faut y retourner parce qu'il est certain que c'est là que se trouvent les richesses et l'Eldorado le plus fou d'Amérique. Et c'est une sorte de publicité qui est bien involontaire de la part de Cabeza de Vaca, mais à cette époque, les esprits sont très échauffés par les trésors précédents. Je vous raconterai par exemple le Pérou qu'on venait de découvrir avec le trésor d'Atahualpa. On se rappelait encore du trésor du Mexique. Donc on pensait qu'un peu partout en Amérique, il y avait des Eldorado possibles. Et finalement, c'est un conquistador très célèbre qui va monter une expédition en suivant les messages, les idées fausses d'ailleurs, de Cabeza de Vaca. Cet homme s'appelle Fernando de Soto. Soto, il a aussi une aventure un peu folle, parce que c'est quelqu'un que je connais parce que je l'ai étudié lorsqu'il travaillait au Panama. Vous voyez cet endroit assez difficile qu'on appelait le Darien. Il a été lieutenant de Pizarro. Donc c'est quelqu'un qui savait ce que c'était que la conquête et qui, finalement, au moment où il y a eu des bagarres au Pérou entre les deux factions, c'est-à-dire celle des almagristes et celle des pizarristes, on en parlera, c'est-à-dire les deux frères ennemis qui finalement vont s'entretuer et Pizarro va mourir comme tout le monde, bah lui, au contraire, de manière intelligente, il se retire en Espagne et juste au moment où ces hostilités entre les deux hommes commencent au Pérou. Et là, il pense surtout à se reposer parce qu'il est devenu riche. Il a obtenu tout ce qu'on pouvait rêver d'obtenir en Amérique. Et puis là, on lui dit, mais écoutez, vous êtes le seul qui pourrait peut-être, vous pourriez peut-être aller voir du côté du Nord, vous pourriez réussir. Enfin, il n'y a que vous comme grand conquérant pour... finalement, il se laisse faire. Il a peut-être un certain orgueil encore. Après tout, qu'on vienne le chercher en Espagne pour cela, c'est qu'il a peut-être une raison d'être engagé dans une nouvelle aventure, et puis il va quitter comme ça, enfin il va dire adieu véritablement à son Estramadure. Presque tous les conquérants viennent d'Estramadure. Vous voyez où ça se trouve l'Estramadure ? C'est à peine en dessus de l'Andalousie, c'est la région peut-être la plus pauvre de l'ouest de l'Espagne, cette terre qui s'appuie carrément contre le Portugal. Et là, on le voit descendre jusqu'à Sanlúcar de Barrameda, et il a, comme il est très connu, il arrive à obtenir 10 bateaux. Il a 1000 hommes à sa disposition. Il a, je crois, 300 ou 350 chevaux, donc ce qui est vraiment énorme. C'est une cargaison, une véritable armada qui part maintenant. Il fait une petite escale du côté de Cuba. On avait toujours l'habitude de s'arrêter à La Havane. Et il débarque directement en Floride, puisque maintenant on sait où se trouve cette partie de l'Amérique. Et là, il laisse simplement une centaine d'hommes pour garder ses bateaux. Et il part vers le nord. Alors, naturellement, la première étape, c'est Appalaches. Il va retomber sur ce petit village et il ira plus loin jusqu'à Mobile. Mobile, qui est déjà à la frontière de l'Alabama et du Mississippi. Et c'est là que Fernando de Soto, 8 ans après qu'il ait réussi à croiser le regard d'Atahualpa, c'est simplement pour vous donner un peu le temps qui passe entre la grande conquête du Pérou et ce moment-là, bah, il a peut-être toujours autant de force et de pouvoir. Il sait exactement comment combattre un Indien. Et là, il va faire tout le circuit de l'Alabama, il va aller jusqu'au Tennessee, il va franchir le Mississippi, il va traverser l'Arkansas, il va ensuite découvrir ses plaines, déjà grâce de l'Oklahoma. Il y a très peu d'agriculteurs dans cette région, ce sont toujours des nomades qui suivent des troupeaux de bisons. C'est vraiment votre histoire d'Indien, celle que vous lisiez dans votre enfance. Et il pénètre finalement en cours de chemin dans cette région peut-être beaucoup plus dure, où il retrouve ces tribus indigènes qui sont équipées sommairement, c'est vrai, mais qui ont un courage extraordinaire. Et vous allez voir pour la première fois comment un Indien nomade va pouvoir réagir face à l'Espagnol. Ce sera la première guerre des Indiens et des futurs cowboys. Vous savez que ces Indiens ont des armes assez simples. En fait, ils ont surtout cette hache, ce que vous appellerez, vous, le tomahawk. Mais ils en font un excellent usage, parce que la première chose que va remarquer Soto, c'est qu'ils pratiquent une coutume bien particulière. C'est le découpage et l'arrachement de la peau du crâne et de la chevelure de chacun de leurs ennemis. C'est-à-dire ce tomahawk et ce scalp, bah, c'était ça qui était nouveau pour les Espagnols. C'était la première fois que Fernando Soto, qui avait l'habitude d'essayer la diplomatie, la ruse, bah, là, rien à voir avec le Pérou. Hein. Ce n'était pas du tout un pouvoir organisé qui était en face de lui. Et parlementer, ça, il aurait voulu le faire. Mais avec qui est-ce qu'il fallait le faire? Bah, les circonstances, la mentalité des indigènes, ça se prêtait absolument pas du tout à ce genre de théâtre que Cortés, enfin que tous les conquérants du Sud ont pu faire face à de grandes civilisations. Alors il va renoncer à toutes ces méthodes de négociation. Il voit bien que chaque fois c'est une autre tribu et il va recourir à la manière forte. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire ne va faire que se répéter dans cette région du monde. On va parler uniquement par le fer, par le feu. Par le feu surtout, parce que les Indiens du Mississippi, bon, ils vivaient dans des maisons en bois qui étaient recouvertes de toits de chaume. Et quand je parle du feu, c'est qu'avec une simple torche, ben, tout un village allait pouvoir s'enflammer. Il y a des monceaux de cendres partout, les femmes indiennes sacrifiaient leurs cheveux parce qu'elles avaient l'habitude de les couper sur la tombe de leurs époux. Il y avait des cris de guerre, des hurlements de douleur. Et Soto, ben, vous le voyez là, avec son glaive en main, il est cuirassé comme un homme du Moyen-Âge. Il s'avance dans ce paysage qui a un côté tragique. C'est vrai que ces images des États-Unis avec la nature et ces grands espaces, c'est une marche qui va se faire uniquement dans le sang, dans la douleur. Partout, il n'y a que flamme, il n'y a que fuite. C'est un moment extrêmement dur. Et je vous en parle comme cela parce qu'après tout, on s'égare, on s'enlise dans les marais, on revient sur ses pas. Mais quelle est l'image que tous ces Indiens, que toutes ces tribus ont reçu à ce moment-là, de qui était l'homme blanc? Après tout, que vous soyez ensuite anglais, français, je crois que le message avait déjà passé avec les Espagnols. C'est-à-dire cette dureté de l'attaque, cette façon incroyable de tuer pour tuer, de brûler pour brûler, c'est quelque chose qui a dû marquer toutes les plaines et tous les Indiens des plaines des États-Unis. Alors, nous voici de nouveau au Mississippi. C'est une autre région. Ça va être terriblement difficile de retourner au but, ça on le comprend. Et puis quel but d'abord est-ce qu'on cherchait? Soto, il dit qu'il sait exactement où il va. Ils sont tous malades, ils sont terrassés par les fièvres. Il meurt en pleine course lui-même, parce que je crois qu'il va mourir, bah tiens, il doit avoir le même âge que moi, grosso modo, je crois qu'il est mort à 42 ans. Et pour éviter que sa dépouille tombe aux mains des Indiens, ça c'est peut-être une des plus belles images aussi de ce moment étrange de la conquête, de cette dureté de la conquête. On a tellement peur que son corps soit pris par les indigènes que ces hommes vont l'immerger au plus profond du Mississippi, c'est-à-dire qu'on va le faire couler en plein cœur de ce fleuve et il va reposer dans ce vieux Meshachsebe, c'est-à-dire le père des eaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui était en fait ça. Sa seule conquête. Et les Espagnols, bah, ils vont perdre leur capitaine, ils poursuivront quand même cette randonnée un peu folle, et depuis longtemps, bah, ils ont déjà quitté leur haillons, leurs chaussures qui sont percées depuis longtemps. Ils marchent devant eux, ils ne savent pas très bien où ils vont, ils sont à pieds nus, ils sont couverts de peaux de bête, on dirait une espèce de horde de nomades, ils ressemblent étrangement aux Indiens des plaines, mais en moins bien, c'est vrai. Et un matin, ils voient à l'horizon une ligne bleue, quelque chose de très grand, de très fort. C'est une cordillère extraordinaire. Ce sont les montagnes rocheuses. C'est la première fois qu'on aperçoit cette chaîne de montagnes. Ah non, eux qui connaissaient déjà, pour certains d'entre eux, la cordillère des Andes, non, c'était trop. Quand on est dans un état pareil, on n'a plus envie de grimper, on n'a plus envie de marcher. Et ils n'avaient plus envie de suivre ce chemin. Et c'est-à-dire qu'ils vont simplement s'arrêter devant cette barrière et ils vont reculer. Et c'est assez fou de penser qu'ils vont revenir en arrière. Ils vont tourner le dos à ces rocheuses, sans se douter en fait qu'elles prolongent justement la cordillère. Et ils vont retourner une fois de plus jusqu'au Mississippi. Bien sûr que ces troupes de Soto se sont appauvries, lui-même est mort, ils ne sont plus que 300 avec quelques chevaux, et presque tous les officiers sont morts, les vivres manquent, mais ils ne manquent pas de courage, ils vont essayer quelque chose d'extraordinaire, ils vont descendre le Mississippi jusqu'à la mer, et ils vont vouloir rallier le Mexique. Donc, ils savent déjà que ça ne sert à rien de retourner sur le bord de la plage pour chercher les navires, parce qu'ils sont sûrement déjà partis depuis bien longtemps, et ils ne se sentent pas la force de traverser l'Alabama et la Floride, mais comme le précédent Narvaez avait essayé de tenir ses gens jusqu'au bout, ils pensent bien sûr que les 10 vaisseaux sont partis, mais la solution, c'est simplement de construire des bateaux, des espèces de brigantins, et de se lancer sur le fleuve, descendre petit à petit. Et ils vont prendre le départ, mais derrière eux, il y a un millier de pirogues qui commencent à les suivre, et devant eux, encore un millier qui leur fait barrage. Le millier de pirogues qui se trouve devant vous est naturellement celui qui vous gêne le plus. C'est-à-dire vous avez vos 7 embarcations qui ont été construites de toutes pièces comme ça, qui ne tiennent qu'à peu près. Enfin, il faut surtout faire sauter ce barrage. Et par quel miracle ces conquistadors vont-ils y arriver? Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils vont s'élancer vers le sud, mais malheureusement, ils rament, vous imaginez, les projectiles qui leur sont lancés au passage. Les Indiens ne les lâchent pas. Non, non, ils les suivent, ils les prennent en chasse. Et c'est seulement après plusieurs jours d'une navigation qui a dû être furieuse et très difficile que les Espagnols réussissent finalement à distancer toutes ces pirogues et à prendre un peu le large et à perdre de vue leurs poursuivants. Ils vont suivre longtemps la pente très très douce. Je dis pente parce que quand on est descendu une fois le Mississippi, on s'en rappelle, c'est quelque chose qui donne l'impression de ne pas bouger. Au contraire, on est dans une espèce de large fleuve comme ça, tranquille. Ben, ils vont s'en souvenir de ces pirogues. Moi, je vois la scène. Vous avez ces 7 bateaux qui ont été construits avec des briques et des brocs. Et finalement, vous avez devant et derrière vous ces pirogues qui sont peintes avec des couleurs vives. Il y a du bleu, il y a du noir. Et ils sont harcelés. On pourrait croire comme cela qu'ils sont piqués au vif sans arrêt. C'est vrai qu'il va y avoir des morts. Et en 3 semaines, ils vont descendre petit à petit tout ce fleuve. Ils se retrouvent dans ces bouches énormes du Mississippi. Ils arrivent finalement dans le golfe du Mexique. Et là, bah, par intelligence, ils vont obliquer à droite. C'est-à-dire ils vont partir sur l'ouest et ils vont suivre tout le rivage côtier en direction de ce Mexique. Malheureusement, il y a encore une tempête, comme tout à l'heure, qui va malmener ces embarcations. Ils doivent tout abandonner. Ils doivent gagner même la côte à la nage. Et c'est à pied qu'ils vont franchir leur dernière étape, à pied, mais dans quel état? Parce que maintenant vous êtes la sentinelle espagnole qui est en faction là dans un poste, je ne sais pas, à Panuco par exemple, et vous voyez arriver ces hommes qui ont marché pendant des jours, qui ont été marins le long de ce Mississippi, qui étaient déjà mal habillés avant de partir des plaines du Nord. Ils sont à demi morts, ils sont presque nus, ils ont les cheveux beaucoup trop longs, ils ont cette barbe tout en broussailles, vous avez ces yeux qui brillent comme ça avec les fièvres, puis un visage trop foncé, noir, enfin un peu crispé. Ça a été quelque chose d'assez fort, parce que cette rencontre entre l'alférez moribond qui arrive avec cette espèce de troupe qui a encore le courage, le dernier acte, on le connaît par des chroniques, le dernier acte de l'alférez, c'est de lever encore ce pennon tout effiloché, tout sale, de Fernando de Soto. C'est un peu comme si Fernando était revenu sur son lieu de départ, qu'il était revenu au Mexique, et vous voyez ce petit fanion qui se lève. C'est vrai que c'est assez touchant, parce que toutes ces expéditions que je vous raconte aujourd'hui, elles ont quelque chose de tragique, parce qu'elles sont toutes pratiquement inutiles. Ce sont des recherches, des explorations, mais il n'y a jamais rien au bout. Et pourtant, ils marchent pendant des jours, des années, des mois. Et la seule chose qui reste maintenant à ces rescapés, c'est de raconter ce qu'ils ont vu. Alors, ce qu'ils racontent est encore plus fou, parce que c'est carrément, on a l'impression qu'ils inventent, ils vont parler de ce qu'on va appeler, enfin, tout le monde va parler des 7 cités, qu'on appellera ensuite les 7 cités de Cibola. C'est une légende, c'est un mythe qui commence à être créé comme ça de toutes pièces, et en même temps que l'expédition de Fernando de Soto était du côté du Mississippi, c'est justement un autre homme qui va permettre de concrétiser cette idée des 7 cités. C'est quelqu'un qui se trouvait justement à mi-chemin entre la région des montagnes rocheuses et la région où nous étions tout à l'heure, et c'est Antonio de Mendoza, c'est-à-dire le fameux vice-roi du Mexique, celui qui a remplacé véritablement Cortés sur place, qui va être intéressé par tous les propos qu'on a entendus à travers Cabeza de Vaca, à travers Soto. Ben là, il va faire envoyer un certain Francisco Vázquez de Coronado. C'est un commandant de Culiacán. Il va demander simplement une mission de reconnaissance vers le nord. Et ils prendront avec eux quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est le noir, c'est le mort Esteban, qui avait déjà accompagné notre Cabeza de Vaca dans ces régions, et puis un religieux qui s'appelle Marcos de Niza. Je vous cite ces gens-là parce que vous allez voir qu'ils vont créer eux-mêmes un véritable Eldorado, de toutes pièces. Et c'est une légende qui va courir et qui existe encore aujourd'hui. Quand vous en parlez à certains indigènes, ils savent très bien qu'un jour, les 7 cités ont été inventées, ou en tout cas qu'elles, pour eux, elles ont véritablement existé. Donc ils partent en avant-garde, et les 2 Espagnols, qui sont naturellement en escorte, il y aura des Indiens avec eux, ils vont suivre une fois de plus la vallée de Sonora, ils vont pénétrer dans l'Arizona. Ils avancent et il semble vraiment que petit à petit, Ils entendent parler d'une cité énorme, de quelque chose qui se trouve toujours plus au nord. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose au nord. Et ils arrivent finalement en vue d'une agglomération. Alors, il faut que je vous décrive la scène. Enfin, il faut vraiment que vous mettiez quelques instants à la place de ces gens-là. C'était un endroit qu'on appelait Cibola. Vous avez compris que quand je disais les sept cités de Cibola, c'est à cause de ce que vous avez maintenant sous les yeux. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver en fait devant une sorte de forteresse, quelque chose qui avait l'air d'être mauresque. N'oubliez pas qu'on a aussi un mort avec nous. Et on ne va pas plus loin. Le père Nissa, bon, il plante une croix sur un monticule de pierre en signe d'annexion simplement, et puis il revient en arrière. Il a vu donc quelque chose à l'horizon au moment du coucher du soleil qui ressemblait à une immense forteresse, c'est tout. Et il est convaincu d'avoir contemplé l'une des sept cités du Nord. Et cette conviction, ben Marcos de Nissa, il va la faire partager à Coronado. Et personne ne va mettre en doute le récit, même s'il est un peu émerveillé, le récit d'un prêtre. Et d'ailleurs, moins la chose était croyable à l'époque, plus les conquistadors y croyaient. On a vu ça partout et on va encore voir ça partout. On n'a pas terminé nos chemins d'Eldorado, mais c'est vrai que quand on a suivi les traces des premiers sur l'Amazone, qu'on se retrouve en Colombie, qu'on se retrouve au Venezuela, en Guyane même, qu'on se retrouve une fois de plus dans ces terres du Pérou, on a toujours l'impression que juste un peu plus loin, il y a encore quelque chose. Et c'est vrai qu'ils vont chercher ces chemins des sept cités. Bah, il fallait en prendre possession au nom du roi d'Espagne, naturellement. Et c'est une expédition nouvelle qui va être commandée par Coronado lui-même qui va se lancer vers cette nouvelle terre promise. Un millier d'hommes, des Indiens bien sûr, du bétail, du matériel, et vous avancez, vous marchez avec Coronado, et finalement vous vous retrouvez devant Zuni. Vous êtes à la frontière de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, et vous êtes maintenant devant Cibola. Cibola ? C'est étrange de penser qu'on retrouve uniquement quelques masures de terre, de pierre, construites sur un rocher, des petites ruelles très étroites, un petit cours d'eau. C'est plutôt un paysage hostile aux alentours, un plateau calcaire à 2000 mètres d'altitude, pas un arbre, pas un brin d'herbe, une terre qui a été séchée et qui est complètement nue, un climat très instable, il fait très froid, il fait très très chaud, ce soleil qui vous brûle sans pitié. C'est ça, la plus belle des sept cités de Cibola. Mais les Espagnols sont là tout à fait étonnés, mais enfin qu'est-ce que ce Nissa a bien pu raconter? Comment est-ce que ça... Enfin, les Espagnols, ils commencent vraiment à se trouver un peu amers. Et ben, ils s'imaginent bien qu'ils avaient affaire à un illuminé. Et ils pensaient simplement que ce prêtre avait un peu la cervelle. Enfin, il avait une cervelle un peu dérangée. Mais en fait, lorsqu'ils se trouvaient là, ils ignoraient peut-être qu'ils étaient devant ce qu'on appelle les pueblos du Nouveau-Mexique. Ces villages, chaque hameau en fait est constitué par des maisons qui sont hautes de 3 ou de 4 étages et qui sont entourées d'une enceinte extérieure qui est flanquée avec, il y a des sortes de tours, hein, comme des tours de guet. Et de loin, c'est vrai après tout que dans cette lueur de la fin d'une journée, au moment du couchant, on pouvait s'imaginer, on pouvait trouvais que cette ville ressemblait à une cité du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, enfin une cité sarrasine ou même une sorte de château en Espagne. Après tout, si Nissa avait pris cela pour une grande ville, c'est aussi à peu près dans la même tête qu'un certain Don Quichotte avait pris des auberges pour des châteaux forts. Et si je parle de cela, si je parle de cette époque des chevaliers, de cette époque des héros, de la Mancha, de la Manche, ben c'est peut-être parce que là, effectivement, lorsqu'on voyait ces pauvres hameaux juste au moment du soleil couchant, c'est vrai que la terre, je me rappelle ces paysages très curieux qu'on trouve dans les plaines du nord du Mexique ou au sud des États-Unis, cette façon de prendre même parfois un rocher pour une construction, de voir tout à coup ces silhouettes étranges au moment du coucher du soleil. Bah, Coronado, il va réussir petit à petit à apprendre toute cette région, à conquérir le pays de Cibola, c'est-à-dire la région Zuni et toutes les bourgades qui sont environnantes. Bon, on ne pouvait pas opposer, il n'y avait pas de possibilité de se battre contre l'Espagnol, même si ces gens-là étaient beaucoup structurés, enfin étaient très structurés. Je veux dire par là qu'il y avait une société quand même très forte et que très vite, bizarrement, il y aura une sorte d'amitié qui va s'établir entre les Espagnols et les Unis. Et ne sachant absolument pas quel nom ils devraient donner à cette nation, les Espagnols vont simplement les appeler les Pueblos. Pueblos, ça veut dire village, tout simplement. Et c'est resté. C'est resté parce que les Pueblos. C'est vrai que ce sont des gens d'une origine assez étrange. J'en parlerai un petit peu parce qu'au fond, ça nous fait peut-être comprendre aussi qui étaient ceux du sud, les Aztèques par exemple. Ces Pueblos, ils avaient creusé tout d'abord des demeures dans des simples cavernes, dans les rochers, ils faisaient de la vannerie, et ils ont simplement vécu comme des troglodytes, et petit à petit, ils abandonneront cette région souterraine, enfin ces maisons, ces grottes, pour créer leur village fortifié. Très près d'ailleurs, ils vont devenir agriculteurs, sédentaires, et ils vont tisser la laine des animaux qu'ils trouvent aux alentours, ils vont pratiquer de la céramique, ils vont tanner les peaux de cerf par exemple. Donc ils vont déjà vivre comme des nomades au départ, mais ensuite comme des Indiens qui obligatoirement vont inventer de nouvelles religions. Ils vont adorer le soleil, chaque matin un prêtre convie tout le monde à la prière, on se trouve sur le sommet d'une terrasse plus élevée, au solstice d'été, on célébrait des fêtes avec ce qu'on appelle la fête des flûtes. Je vous parle de cela parce que ça vous donne un peu une impression nouvelle sur ces Indiens. C'est une structure bien différente de nos simples tentes Apaches ou Sioux qui se baladent dans les plaines. Et là, à l'époque de la chasse, c'est vrai qu'on partait chercher des bisons, on faisait la danse des bisons avant le départ de ces chasseurs qui étaient armés simplement d'un arc et de flèches avec des pointes de coquillages ou de pierres. Mais tout ce qui était danse, tout ce qui était acte communautaire, c'était quelque chose de différent. Il y avait des rites sacrés qui étaient accompagnés par ces danses. Et les chanteurs, on battait la mesure en frappant dans les mains. Mais il y avait la fête de la germination. Il y avait aussi la fête du feu nouveau, une fête qu'on retrouve à Mexico même. On a l'impression qu'on retrouve un peu de la liturgie aztèque. On ne sait pas très bien qui a inspiré l'autre. Mais enfin, ce qui est étrange, c'est qu'autant ici chez les Pueblos, que nous le savons depuis quelques mois, quelques années, dans la région du Mississippi, où on a retrouvé énormément d'enterrements et de lieux de cultes intéressants, ces cultes solaires, ces religions solaires sont pratiquement les mêmes que chez les Indiens du Mexique et surtout chez les plus développés du Mexique, chez les Aztèques. Alors c'est vrai que la femme, par exemple, chez ces Pueblos, avait une importance un peu démesurée par rapport aux autres tribus. Elle commandait le foyer, c'est vrai aussi, mais elle tenait une place dans les conseils de la cité. Il y avait des confréries très agissantes, on s'occupait de la politique, on s'occupait de la religion lorsqu'on était une femme, et ces femmes Pueblos, elles s'occupaient de leurs enfants bien sûr, mais elles gouvernaient pratiquement les hommes. Ça c'est une chose qu'on voit très rarement en Amérique, ce côté matriarcal, et les Pueblos avaient une organisation donc très ferme. Et on doit les considérer comme un peuple civilisé par rapport à leurs voisins. Et je pense que par rapport aux chasseurs nomades des plaines du Nord, ils sont véritablement les rois, les seigneurs de cette région. Ils ont une certaine comparaison, on peut faire une comparaison avec le Mexique ou le Pérou. Ils ont été peut-être même les précurseurs de certaines de ces civilisations du Sud. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 30 000 à peu près. Et si on considère que le pays de Cibola s'étendait sur l'Utah, le Colorado, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, même sur le Sonora, le Chihuahua du Mexique, ces Pueblos, ils avaient un vaste territoire, ils avaient deux grandes rivières, le Colorado et le Rio Grande. C'est vrai que tout à coup, un autre monde s'ouvre. La nature des Pueblos est superbe. Ces deux rivières, le Colorado, le Rio Grande, le Colorado qui recevait le Rio San Juan au nord, et bien encore le Rio Gila au sud, avant de se jeter dans le golfe de Californie. Ce Rio Grande, vous savez qu'aujourd'hui, il fait frontière entre le Mexique et les États-Unis sur une grande partie de son cours, et il se perd ensuite dans le golfe du Mexique. Ces deux fleuves, ils étaient très voisins. Si on prend le cours supérieur, c'est-à-dire près des sources, on se retrouve chez les Pueblos. Et ils passaient de l'un à l'autre sans qu'on... On ne peut pas parler d'une véritable migration, mais le centre... de tous les établissements, c'était toujours Zuniz. Zuniz, c'était la capitale de Cibola. Elle va demeurer comme telle, puisque c'est sous... Bon, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a des réserves indiennes. C'est aujourd'hui qu'on retrouve dans cette région les descendants de ces tribus précolombiennes. Bon, c'est des spécimens, je pourrais dire, des souvenirs. Ce sont les derniers peaux rouges qu'on a laissés vivre là. Mais pendant plusieurs mois, revenons peut-être à Coronado, il va chercher autour de Cibola... Il va chercher naturellement de l'or. C'est-à-dire que c'est quand même fou que chaque fois qu'il y ait une fable, qu'il y ait une histoire, il y ait cru. C'est-à-dire chaque fois qu'on lui racontait quelque chose, si un Indien lui désignait, c'était simplement pour se moquer souvent. Je dirais, voilà, là-bas, au fond, vous avez la possibilité de trouver une mine où il y a un village très intéressant. Il y allait. Et c'est comme ça qu'il a découvert Sicuye, qui est au nord du Rio Pecos. Et là... C'est une belle légende, parce qu'on racontait, je vois l'Indien raconter l'histoire à Coronado, et Coronado partir véritablement en courant. On disait que le chef de Sicuye se tenait sous un arbre gigantesque auquel étaient suspendues des clochettes d'or, et que le vent du soir agitait ces clochettes, et que le prince, vous voyez cet Indien qui s'endormait au son de cette musique d'or. Alors tantôt, c'était question, on parlait d'un empire, je sais pas, il y avait l'empire par exemple de Quivira, qui se trouvait près du fleuve Arkansas. Là, on disait par exemple qu'on trouvait des poissons qui étaient aussi grands et pareils, qui avaient la même forme que des chevaux. Bon, après tout, c'était peut-être des hippocampes. Mais voilà le genre de légende qui faisait courir Coronado une fois de plus. Et chaque fois, c'était une déception. On repartait ainsi vers d'autres chimères. Il y avait chaque fois un petit fond de vérité dans les indications des indigènes. Parce qu'au fond, l'or ne manquait pas dans cette région. Et surtout pas aux environs de Cibola. Où était l'or? Il était sous terre. Il faudra attendre, là j'ai fait un mauvais jeu de mots, il faudra attendre le fameux sous-terre, c'est vrai, pour qu'on vienne chercher cet or du côté de la Californie et qu'on ait cette ruée incroyable du 19e siècle. Mais pour mettre un terme à cette course de Coronado, on va devoir revenir au Mexique. Ils vont être reçus par le vice-roi, qui ne sont pas très contents d'ailleurs de leur expédition, puisqu'ils ne ramènent rien. C'est toujours ce qu'on leur demande, est-ce que vous avez de l'or? Mais pourtant, c'est López de Cárdenas qui m'intéresse. López de Cárdenas est un des hommes de cette troupe. Et au cours d'une exploration vers le nord, il avait découvert par hasard une merveille naturelle. Je crois qu'elle dépassait dans sa réalité les beautés de ces sept cités d'or qu'ils attendaient. C'était le Grand Canyon du Colorado. Ça a dû être un moment absolument grandiose de la conquête. Vous vous voyez, avec un cheval, quelques Indiens, arriver tout à coup au bord de ce gouffre incroyable, devant ce paysage de début de création du monde, et cet abîme insondable où vous avez ces eaux qui roulent comme des eaux du premier déluge. Vous voyez devant vous des blocs qui sont aussi hauts, aussi hauts que la tour de Séville, la Giralda. Vous avez des monuments de pierre fantastiques. Les Espagnols, vous les voyez, ils sont là au bord, ils regardent ce vide étrange, vous les voyez se signer, et ces vieux chrétiens qui sont venus du fond du monde, qui sont venus du vieux monde, avaient reconnu devant le Colorado, devant cet immense défilé, devant ce Colorado, ils avaient reconnu certainement la main de la nature, mais aussi pour eux, bien sûr, fervent comme ils l'étaient, la main de Dieu. pendant que nous étions avec Coronado dans le nord, il y a des événements très graves qui commencent à se passer dans le sud et particulièrement dans la région de Jalisco. Jalisco ne vous dit rien, c'est une grosse province du Mexique, ça se trouve en dessus d'une ville que tout le monde connaît, Guadalajara. Près de Guadalajara, les Indiens se sont tous réunis et ont commencé à attaquer, à brûler les églises, à attaquer les Espagnols. Et finalement, c'est un certain Oñate qui se trouve là. Il remplit les fonctions de gouverneur en l'absence de Coronado et qui se trouve pratiquement enfermé à Jalisco. Et il est coincé en attendant une attaque de ces Indiens. Et il arrive quand même à faire parvenir un message au vice-roi. Et là, la requête gêne beaucoup Antonio de Mendoza parce qu'il ne sait plus du tout ce qu'il doit faire. Il n'a pas les troupes qu'il faut. Et il sait que ces Indiens du Zacatecas sont terribles et qu'ils pourraient tuer tout le monde. Donc il se dit, il faut que je trouve l'homme providentiel. Et il va trouver quelqu'un. C'est Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, c'est celui qu'on appelait le dieu solaire, on l'appelait Tonantiu, il était considéré par les Indiens comme le dieu suprême sur Terre. Et vous l'avez déjà rencontré lors de la prise de Mexico, c'est lui qui a créé l'attaque de Mexico, c'est lui qui va partir conquérir tout le Guatemala, c'est le favori de tous les grands conquistadors, c'est le héros du Mexique. Et c'est vrai qu'en même temps, cette façon d'avoir pris l'Amérique centrale, c'est aussi quelque chose qui va lui donner une renommée fantastique, parce qu'il va prendre de manière très très dure... le Guatemala, il va tuer des milliers, des millions d'indigènes, pas forcément directement, mais indirectement en tout cas. Et il avait décidé de faire une expédition assez étrange au moment de son repos. Il avait décidé surtout d'aller voir du côté de Pissarro. Il va descendre jusqu'au Pérou, il sera renvoyé avec beaucoup d'argent parce qu'on a très peur d'avoir affaire à un nouveau conquérant qui vienne changer le jeu de la conquête. Et il va décider de monter une expédition à son retour au Mexique. Eh bien oui, lui, il veut aller directement. Vous voyez qu'il y a une folie chez ces conquérants dans cette recherche de l'Eldorado et de la richesse. Ben lui, il décide d'aller en Chine. Ben oui, il va aller voir les îles des épices. C'est peut-être une des choses les plus ambitieuses qu'on ait créées au Mexique parce que, à première vue, il faut prendre le départ sur les côtes mexicaines et il faut traverser d'un seul coup tout le Pacifique. Et au bout du voyage, lui, il est sûr de trouver la fortune. Alors, il fait monter des chantiers navals et il fait venir du Mexique, du Guatemala, tout ce qu'il faut pour vraiment construire une véritable flotte. Et il paye, il a de l'argent, hein. Il vient de toucher encore un pactole superbe au Pérou pour qu'il laisse le Pérou à ceux qui avaient envie de le prendre. Et il est le plus grand des conquérants, le plus riche. Il est certainement même plus riche que Cortés, parce que Cortés veut toujours plus et qu'il rentrera en Espagne. En quelques mois, il va faire construire 13 navires armés dans le petit port d'Acaxatla. C'est un petit port que j'ai tenté de découvrir, qui se trouve près de Tehuantepec, c'est-à-dire la partie la plus étroite du Mexique, tout en bas. C'est-à-dire où se serait trouvé une possibilité de canal, comme on le fera plus tard à Panama. Et là, il va lever l'ancre en direction du port de Purificación, c'est-à-dire qu'il part au départ sur le nord. Et là, il entend immédiatement la nouvelle, c'est-à-dire qu'il apprend le danger qui menace Oñate. Et comme involontairement il monte vers le nord, il arrive presque à la hauteur de Jalisco. Et là, je crois que c'est peut-être... J'avais pas envie de vous parler du côté terrifiant d'Alvarado qui a tué tellement de monde et qui a été peut-être le plus cruel des conquérants. Mais j'avais justement envie de vous montrer que malgré cette cruauté, ces Espagnols avaient toujours des idées chevaleresques et qu'au fond, que par leur ferveur, leur croyance et leur idée de chevalerie, ils étaient quand même assez remarquables. Et là, au lieu de continuer sa conquête, il décide simplement qu'il faut défendre quelqu'un qui est en train de mourir sous les flèches des Indiens. Il ordonne à tout le monde, aux 13 navires, de se vider, de descendre à terre, de carguer les voiles et de sceller les chevaux. Il n'est plus question des Moluques, il n'est plus question de la Chine. Il veut sauver la vie d'un capitaine de sa majesté. C'est beau comme geste. Simplement parce qu'il a entendu que quelqu'un était menacé. Alors, il y a une centaine de cavaliers et vous voyez ça qui débouche hein, dans ces peñoles, dans ces régions montagneuses de Guadalajara. Oñate, il allait succomber sous les peaux rouges du Zacatecas. Et finalement, l'arrivée en trombe d'Alvarado, ça va renverser complètement la situation. Il était connu dans toute l'Amérique, du Mexique au Chili. Ses exploits étaient légendaires et c'est vrai que simplement cette apparition sur ses étriers, sa lame à la main, son gantelet de fer, cette barbe rousse si connue qui faisait peur aux Indiens, c'est pour cela qu'on l'appelait le soleil rougeoyant, le soleil jaune. Eh bien, le simple fait d'arriver comme cela va complètement renverser la situation. Et c'est bien ce dieu solaire qui va subjuguer tout le monde et qui va les faire reculer. Oñate respire, il est sauvé maintenant. Et malheureusement, juste en plein au plus fort de la mêlée, en dessus sur la colline, il y a un cheval qui glisse sur les cailloux d'un sentier, qui perd l'équilibre. Et vous voyez cet énorme cheval qui roule le long de la falaise et qui arrive exactement au pied de cet endroit où combat Alvarado. Le conquistador n'a pas le temps de se retirer. Il reçoit le cheval directement sur lui-même. Il est monté et c'est une bousculade terrible. Il est écrasé par le poids de la bête. Parce qu'une bête, elle est alourdie par tout cet harnachement de bataille. Il est écrasé au sol et c'est ainsi que Pedro de Alvarado va mourir. L'aventure espagnole en Amérique du Nord, elle prend fin peut-être avec ce geste un peu chevaleresque d'Alvarado, qui va abandonner sa route des épices pour voler au secours d'un compagnon. Moi, je dirais que c'est un peu l'auréole autour de quelqu'un qui a été si négatif. Ce cadavre brisé, il n'y avait peut-être que Calvarado qui pouvait être transformé, racheté ou racheter son passé sanglant, finir presque en beauté un acte gratuit, car en effet, un seul Indien de l'isthme qui ait oublié l'invasion du Guatemala ou les colonnes d'Alvarado, c'était peut-être une façon de dire qu'une fin comme celle-ci, de Mexico à Tehuantepec, une promenade militaire, une façon d'avoir réussi à mettre sous sa botte un pays qu'on appelait Chequiquel, c'est-à-dire sous le sang. Et à l'autre bout, une mort absurde, une mort qui rachète tout. Et je pense qu'il faudra attendre les retardataires anglo-saxons pour comprendre à quel point l'ensemble de cette Amérique du Nord, qui a été découverte pour une grande partie par les sujets de Charles Quint, va être exclue, va être vidée, va être oubliée. Cet Eldorado du Nord, c'est déjà un désert mentalement, même si toutes les légendes courent encore, et ce sera le seul morceau qui manquera à l'empire, l'imperium espagnol. Il faudra être anglais, il faudra être français pour s'y intéresser. La prochaine fois, j'aimerais vous faire découvrir un peu la fin de ce grand mirage de l'Eldorado. Une fausse fin, parce qu'après une fin, il y a toujours une fin lorsqu'on est un peu espagnol. Nous partirons peut-être vers le sud, peut-être vers le Pérou, peut-être à la découverte du plus grand trésor que les Espagnols n'aient jamais réussi à faire tomber dans l'escarcelle de leur empereur.